Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
C'est quoi cette pile de dossiers sur mon bureau, Christiane? Ce sont les demandes d'autorisation pour importer et commercialiser des OGM dans les États membres, monsieur Juncker. Ah ouais, c'est vrai, ça traîne cette histoire. Bon bah, on n'a qu'à autoriser, ok? On dit qu'on est d'accord pour commercialiser 19 nouveaux organismes génétiquement modifiés. Voilà, peu ou prou, comment la Commission a pris sa décision vendredi dernier. Les États membres n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur ces importations, la Commission a donc donné son feu vert, 19 OGM qui voient leur passeport validé, 19 dont 11 produits par le géant Monsanto, l'ami américain de l'agriculture paysanne, ce qui vaut un petit coup de gueule de la part de José Bové, Greenpeace et consorts. Mais attention, on ne froisse personne et chaque État membre de l'UE pourra, s'il le souhaite, interdire l'utilisation d'OGM sur son territoire. Et là, on dit ouf. Ouf, puisque quand on sait que la viande de cheval de nos plats findus était passée par la Roumanie, Chypre, les Pays-Bas et Luxembourg, on se dit que chacun va bien sûr garder ses productions à la maison.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez Pierre-Olivier Madeleine. C'est l'un des programmateurs du festival Papillon de Nuit qui aura lieu en Normandie les 22, 23 et 24 mai prochains. Mais d'abord, voilà une ruche qui ne produit pas de miel, quoique l'idée de la ruche qui dit oui est née en 2009 dans la tête de Guillaume Chéreau. Depuis, près de 700 ruches ont vu le jour en France, dont 45 en Pays de la Loire. Le but, redonner le pouvoir aux producteurs et aux consommateurs pour réinventer l'alimentation et sa production. L'idée, c'est donc de mettre en lien les producteurs et les consommateurs en circuit court. Mais comment ça fonctionne exactement? On en parle tout de suite.
Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel.
Maya, l'abeille la plus connue du monde, mais c'est pas tout à fait le sujet du jour. Bonsoir Martine Richat.
Bonsoir Tiffaine.
Et bonsoir Véronique Lancelot.
Bonsoir.
Vous êtes toutes les deux responsables d'une ruche à Angers, chacune la vôtre. Pour vous Véronique, c'est rue Saint-Étienne à Langevigne.
Oui.
Et pour vous Martine, c'est au lac de Maine à Étiquetape.
Oui.
Pour être précise. Alors, avant d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi et comment est-ce que vous avez décidé de monter votre propre ruche? Est-ce que ce concept de circuit court entre producteurs et consommateurs vous a particulièrement séduite?
Oui, alors moi j'en ai entendu parler la première fois par les médias et j'ai tout de suite été séduite par l'idée, le concept m'a beaucoup plu et j'ai tout de suite pris l'initiative de monter une ruche parce que j'avais envie de vivre cette aventure.
Véronique.
Oui, bah moi c'est un ami qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit que ça serait sympa. Bon, moi j'ai vendu déjà des légumes pendant une quinzaine d'années sur les marchés, des légumes que je produisais en bio. Donc je suis une ancienne maraîchère et bah c'était pour moi une façon de retrouver l'ambiance du marché que j'aimais bien et de rencontrer d'autres producteurs, etc.
Alors, l'idée, c'est donc que vous, en tant que responsable de ruche, vous mettiez en relation des producteurs du coin et puis des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément en quoi ça consiste?
Oui, donc la démarche du responsable de ruche, c'est de effectivement former deux communautés. Alors, une communauté de producteurs que l'on va aller démarcher, des producteurs locaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par locaux? Ce sont des producteurs qui peuvent se situer jusqu'à 250 km quand même.
Ah oui, ça commence à faire loin pour
oui,
du local.
Bon, c'est pour des productions un peu particulières, mais pour les produits les plus courants, c'est en principe dans le département. Et puis, la deuxième communauté, donc, qui est la communauté dite des abeilles, ou membres, donc, qui est la communauté des acheteurs potentiels.
Donc vous démarchez des deux côtés?
On démarche plutôt les producteurs, sachant que les personnes vont venir après s'inscrire au niveau du site, puisqu'il faut savoir que toute la démarche se passe par Internet.
Donc vous, Martine, votre ruche, elle est née en février 2014.
Oui.
Et vous, Véronique, en mars, c'est bien ça, mars 2014. Mars 2014, oui. Comment est-ce que vous avez choisi vos producteurs initialement, puisque, ok, vous avez un rayon de 250 km, et après, on fait comment?
Alors, c'est vrai que d'abord, on pianote beaucoup sur Internet pour voir un petit peu ce qui se fait dans le domaine. Et puis, on essaye de voir autour de chez soi aussi ce qui existe. C'est vrai que nous, ici, on est quand même bien servi. Et puis après, on va sur les marchés également. Et puis, on commence à faire un peu de porte à porte. Et voilà, de fil en aiguille, ça se construit, ça fait... effet boule de neige un petit peu, voilà.
Oui, voilà, des fois c'est un producteur qui, une fois qu'on en a trouvé un, nous dit, bah, tiens, il y a un voisin aussi qui serait peut-être intéressé. Bon, il y a des fois des producteurs, une fois que la ruche est construite, il y a des producteurs qui nous contactent directement d'eux-mêmes, ça arrive. Il y a plein de cas, en fait, plein de façons de les trouver.
Est-ce que, alors, vous avez une ligne directrice? Est-ce que c'est que du bio? Est-ce que vous avez des critères comme ça qui sont peut-être pas forcément imposés par la ruche qui dit oui au niveau national, puisque c'est une entreprise qui existe au niveau national et qui a des ramifications partout. Mais comment est-ce que vous choisissez vos producteurs? Est-ce qu'il y a des contraintes?
Déjà, on va les voir en général. Enfin, j'ai essayé de voir le maximum de producteurs, voir comment ils travaillent. Bio, quand je peux, c'est vrai que j'aime bien travailler avec des bio, mais c'est pas uniquement ça. Par contre, j'éviterais un très gros producteur, par exemple. Eux ne sont pas forcément non plus intéressés pour travailler dans les ruches, donc voilà. Mais oui, c'est avant tout essayer de trouver des produits qu'on ait envie de manger, nous, déjà.
C'est ça, le premier critère, c'est est-ce qu'on mangerait ces produits-là?
Oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'on est guidé par... on veut trouver des produits de qualité. Après, c'est les clients qui nous guident aussi. Moi, je ne suis pas spécialement axée bio, mais il se trouve finalement, quand je regarde, que j'ai quand même une majorité de producteurs bio parce que la demande est là.
Qu'est-ce que produisent ces producteurs, pardon pour la répétition, mais c'est pas que des légumes, j'imagine?
Alors non, on a un producteur de légumes qui est le même pour nous deux d'ailleurs.
Qui est bio.
On a donc des producteurs de viande, donc que ça soit du bœuf, de la volaille, du lapin,
du porc,
surtout.
C'est très demandé.
Oui. Des produits laitiers, moi j'en ai plus actuellement, mais bon, c'est aussi...
Pénurie
petit peu difficile à trouver, voilà, oui, les producteurs de produits laitiers qui acceptent de travailler avec la ruche, oui.
Oui, je ne sais pas, il y a une petite difficulté, j'ai une petite difficulté là-dessus. Du pain.
Oui.
Des paysans boulangers dans les deux cas, je crois, on n'a pas le même, mais c'est tous les deux des paysans boulangers. Et puis après, il peut y avoir des produits un petit peu plus... un petit peu différent, un petit peu plus festif ou autre, donc des confiseries,
des pâtisseries.
Et du miel alors?
Et du miel, oui. Voilà. Ça n'a pas été le plus facile à trouver, un apiculteur, mais bon.
C'est lui qui nous avait contacté.
Oui, c'est lui qui nous a contacté, mais c'était pas dans les premiers. Ça m'a un peu posé problème au départ. Je me suis dit, oula, ça va être difficile de trouver, parce que j'en ai contacté plusieurs et ils étaient tous un peu juste au niveau production, et bon, finalement, il y en a un qui s'est proposé, c'était le bon.
Aujourd'hui, chacune dans vos ruches, vous avez réuni combien de membres au bout d'un an, un peu plus d'un an?
Alors, membres actifs ou membres répertoriés sur le site?
Voilà, hors micro, on a déjà discuté de cette question-là, et donc il y a beaucoup de monde qui s'inscrit, visiblement.
Oui, on a un compteur de nombre d'inscrits. Alors, moi, je crois que ça tourne autour de 760 aujourd'hui. C'est vrai que je ne regarde pas tous les jours, moi non plus. Mais bon, ça fluctue entre 750 et 760. Mais voilà, sachant que sur ce nombre-là n'est pas très parlant, puisque en abeilles actives, je pense qu'il y en a entre 100 et 150, quoi.
Idem pour vous, Véronique.
Oui, je pense moins que ça. Je pense en abeilles actives, mais 50, 80, quelque chose comme ça.
Et qui sont ces abeilles? Si on devait dresser un portrait des membres des ruches?
Ah, c'est très divers. Hein, oui, très il y a vraiment divers. De tout. Oui. Il y a des jeunes, il y a des gens moins jeunes, il y a des familles, il y a des gens seuls. Il y a...
oui. L'éventail est très large.
Oui, c'est assez surprenant, mais il y a vraiment de tout. Hein, c'est tout le monde.
D'où l'intérêt aussi, parce que quand tous ces gens se rencontrent, ça fait vraiment un moment très sympathique, quoi. On a beaucoup à s'apprendre les uns des autres, à échanger. Et c'est très, très enrichissant.
Alors pour eux, le principe, pour ces abeilles, pour elles donc, le principe c'est de passer commande sur Internet et ensuite de venir récupérer leurs achats chez vous.
Exactement. Tout le processus se fait par Internet. Donc nous, notre rôle de responsable, c'est d'organiser les ventes. Donc on fait le choix des produits, on a le contact avec les producteurs. Donc on prépare cette vente, on la lance sur Internet. Et l'abeille, le consommateur, disons, le client potentiel a plusieurs jours, 5 ou 6 jours pour faire ses achats.
Plus maintenant. Maintenant, on peut mettre 15 jours. Il y a presque 15 jours. Ils ont presque 15 jours pour commander. Enfin, ça dépend.
15 jours?
Oui, on peut.
D'accord.
Oui.
Ah oui, bon, bah, tu vois, j'en apprends.
J'ai appris tardivement, mais
d'accord,
on peut. Donc, ils ont tout ce temps-là pour commander, choisir leurs produits. Donc, ils règlent l'achat sur Internet.
Sur Internet, oui.
Et puis, ils passent le chercher à la date prévue dans le lieu habituel.
Voilà. Et le producteur est présent pour remettre les produits commandés. C'est l'intérêt de ce genre d'organisation. Voilà.
Et en revanche, s'il n'y a pas assez de commandes pour un produit tel quel, un produit au hasard, il n'y a pas de vente, c'est ça?
Alors, le producteur fixe un seuil, un minimum de vente pour lequel il accepte de se déplacer. Alors, si ce minimum n'est pas atteint, il peut choisir de ne pas venir, parce que pour lui, il estime que ça ne vaut pas la peine. Mais il peut aussi, malgré ça, choisir de venir quand même, parce qu'il y a un intérêt, ou voilà. C'est quand même assez souple comme système.
Et alors, quels sont les avantages pour les producteurs? Donc, pas de perte a priori, puisque de toute façon, les commandes sont fixées à l'avance.
Oui, c'est l'intérêt.
Quel autre intérêt ils peuvent y trouver dans ces ruches?
Ils y trouvent un débouché, déjà.
Débouché
de toute façon, ils cherchent toujours à vendre en direct. C'est vrai que eux, ça leur demande pas beaucoup de temps de recherche de clients, puisque c'est nous qui le faisons. Ils ont juste la préparation, ils amènent leurs commandes, ils les distribuent. Bon, la distribution dure entre 1 heure et 2 heures. C'est nous qui choisissons, en fait. Donc, le temps de la distribution, et puis voilà, quoi. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est quand même un gain de temps et une facilité.
Et l'intérêt pour eux aussi, c'est de pouvoir rencontrer les clients, de pouvoir échanger. Pour eux, c'est très valorisant de pouvoir parler de leur métier, de leur façon de travailler. Et je pense que ça aussi, ils y trouvent leur compte.
Alors sur le site de la ruche qui dit oui, il est écrit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. En revanche, le producteur doit tout de même reverser, vous m'arrêtez si je me trompe, 8,35% de son chiffre d'affaires à la ruche Mama. La ruche Mama, c'est une ruche, la ruche mère en fait, qui emploie 40 salariés. Et puis 8,35%, donc le même pourcentage au responsable de la ruche, c'est-à-dire vous en l'occurrence. Donc, ce n'est pas un intermédiaire, mais quand même, il doit quelque chose à la ruche.
Oui. Et de toute façon, il faut bien se dire qu'il y a toute une logistique derrière. Il y a déjà un énorme logiciel. Et effectivement, comme vous venez de le dire, il y a aussi des gens à payer à Paris qui travaillent pour que cette infrastructure marche. Donc, effectivement, il y a cette partie-là. Et puis, nous, on passe quand même pas mal de temps à préparer les ventes et on fait le lien. On permet cette activité. Donc, je ne pense pas que ce soit une marge énorme. Elle a été fixée dès le départ et a priori elle ne doit pas changer, donc c'est clair dès le départ et bon, libre au producteur de l'accepter ou pas. S'il l'accepte pas, il travaille pas avec la ruche et voilà.
Parmi les missions énumérées sur le site de la ruche qui dit oui, on peut lire, je cite, recréer des liens sociaux autour de l'alimentation. Alors ça se passe à ces moments là j'imagine, pendant les moments de vente chez vous dans vos ruches?
Il y a pas mal de discussions. Bon, en plus, l'un comme l'autre, on est dans des lieux plutôt conviviaux. C'est vrai qu'il y a une ambiance sympathique en général et des échanges, surtout entre les producteurs et les consommateurs. Et c'est un lieu d'échange.
Bon, mais même entre producteurs, et moi je trouve ça très satisfaisant parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance, ils ont fait connaissance les uns les autres et ils arrivent même à collaborer maintenant. On a par exemple, pour donner un exemple concret, on a un fabricant de pâtes fraîches qui s'est mis en rapport avec le maraîcher, qui lui fabrique ou fait fabriquer avec ses légumes restants par exemple de la ratatouille. Donc le fabricant de pâtes fraîches fait des raviolis à la ratatouille avec le maraîcher, donc je trouve que c'est très intéressant cet échange et voilà, c'est aussi le but de la ruche d'arriver à ce genre d'expérience.
Et est-ce qu'on arrive à des repas ensuite entre travail? Est-ce qu'il y a des suites comme ça qui sont données?
Ça peut se faire. Bon, c'est un petit peu compliqué à organiser parce que c'est vrai que malgré tout, on a quand même un petit peu de mal à connaître les gens, leurs emplois du temps, ce qu'ils font dans la vie, leur disponibilité. Mais ça peut s'envisager. Mais bon, c'est vrai que c'est une grosse organisation. Bon, là, on a fêté toutes les deux notre premier anniversaire. Donc, il y a eu des choses organisées. On a invité les gens à apporter des petites choses, des recettes qu'ils avaient envie de faire avec des produits de la ruche ou non. Il y a eu des échanges intéressants. Et voilà, oui, ça peut s'envisager. Ça permet d'un peu mieux se connaître.
On va poursuivre cette discussion juste après Spectateur avec Ty Farès.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, on parle de la ruche qui dit oui avec deux abeilles, Martine Richat et Véronique Lancelot, chacune responsable d'une ruche à Angers. Alors avant la ruche qui dit oui, il existait et il existe toujours les AMAP, AMAP pour Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Pourquoi avoir choisi le format ruche plutôt que le format AMAP ?
Bah, l'AMAP, c'est différent dans le sens où il y a un panier fixe. Et moi, en tant que consommatrice, je ne me serais pas du tout vue avoir un panier fixe. Enfin, c'est pas un mode d'achat qui me conviendrait. Ne pas savoir ce que j'achète, enfin au niveau du contenant, quoi. Ne pas savoir exactement, enfin avoir, ne pas pouvoir choisir la quantité, etc. Moi, personnellement, en tant que consommatrice, ça ne me conviendrait pas. Donc, le format ruche où vraiment chacun commande ce qu'il veut, dans la quantité qu'il veut, les produits qu'il veut, je trouve que ça, c'est quelque chose qui convient beaucoup mieux, enfin, qui me conviendrait mieux, moi, personnellement.
La ruche, effectivement, offre une plus grande souplesse, je vais y arriver, une plus grande souplesse que la MAP, puisqu'il n'y a rien à poser. L'abeille, si elle souhaite ne pas commander, une fois elle ne commande pas, elle fait comme elle veut et elle commande ce qu'elle veut.
Une souplesse aussi pour les producteurs, c'est-à-dire que dans les AMAP, les producteurs sont liés par contrat aux AMAP, donc ils sont sûrs d'être rémunérés. Oui. Mais là, en revanche, si, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas assez de commandes, et ben, tant pis pour eux, en quelque sorte.
Oui, ils le savent dès le départ. C'est pourquoi certains acceptent de travailler ou de ne pas travailler avec la ruche, parce qu'ils connaissent cet aspect-là. Et bon, après, chacun compose avec ça, avec cette contrainte.
Ceci dit, je dois dire que presque la totalité de nos producteurs fournissent aussi des AMAP.
Oui.
Donc, c'est pas du tout, on est complémentaires.
C'est complémentaire.
Voilà, c'est totalement différent comme principe.
Et dans la gestion, une AMAP, c'est une association, et la ruche qui dit oui, c'est une entreprise, en fait, c'est une start-up, mais estampillée sociale et solidaire.
Solidaire, oui, ils ont ce label.
Cette ruche MAMA qui s'appelle Equanum, en fait, l'entreprise s'appelle comme ça, ça change quelque chose dans la gestion ou pas, vous, en tant que responsable de ruche? Est-ce que le fait que ce soit une entreprise plutôt qu'une asso, ça change quelque chose?
Non, bon, nous, on a choisi un statut d'auto-entrepreneur pour exercer cette activité, puisque c'est une activité quand même assez limitée au niveau revenu. Donc, pour l'instant, on fonctionne avec ce statut. Il faudra voir à l'avenir si les choses se développent, mais pour l'instant, on fonctionne comme ça. On peut aussi avoir le statut d'association. C'est le cas, par exemple, si des producteurs sont responsables de ruches aussi, donc il faut peut-être qu'ils trouve un autre statut que celui d'auto-entrepreneur.
Face à l'avalanche de critiques de la part des AMAP, la ruche qui dit oui a publié un post d'explication sur son blog pour clarifier les choses. Est-ce que vous, à votre arrivée, en tant que responsable de ruche, vous avez eu affaire à quelques critiques de la part d'AMAP voisine? Ou alors tout
non.
se passe bien?
Non, puisque je vous dis, nos producteurs font partie aussi d'AMAP et ça n'a absolument pas...
Je crois que ça s'est beaucoup passé via Internet, hein, puisque c'est toujours un peu anonyme Internet, donc on peut dire un petit peu ce qu'on pense plus librement qu'en face de quelqu'un. Et puis mais bon, je crois qu'effectivement la ruche a bien clarifié les choses. Et comme on disait avec Véronique... pour nous, AMAP et ruche, ce sont deux activités complémentaires et chacune des deux a sa place.
Combien est-ce qu'il faut compter pour un panier moyen? Alors c'est toujours difficile puisque ça va de pas beaucoup à un gros panier, mais combien est-ce qu'il faut compter? Est-ce que c'est plus cher que sur un marché, moins cher? Dites-nous un petit peu.
Je dirais que par rapport au marché, si on prend chez des producteurs bio, pour comparer les produits bio, les prix sont à peu près les mêmes, hein, c'est pas excessivement plus. Mais bon, c'est sûr que ça sera plus cher que le supermarché, par exemple. Hein. Faut reconnaître que c'est pas forcément des produits les plus bon marché qui soient. Mais compte tenu de la qualité qu'il y a derrière, c'est pas des produits bas de gamme, c'est quand même du bon produit. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont des tout petits paniers, ils prennent juste un petit peu pour se faire plaisir.
C'est la liberté de la ruche.
Ils peuvent faire comme ils veulent, donc où ils prennent que de temps en temps. Voilà, c'est la différence.
Quelle est la marche à suivre, Martine et Véronique, pour devenir une abeille?
Alors, il faut taper, donc, il faut regarder, il faut aller sur Internet déjà.
Sur le site La Ruche qui dit oui.
Oui, sur le site La Ruche qui dit oui, et on cherche la ruche qui est la plus proche de chez soi. Alors maintenant, il y a toutes les chances d'en trouver une, puisque le réseau s'est bien étoffé. Et puis, on s'inscrit, on indique son nom, son numéro de téléphone, voilà, son adresse, enfin, son pédigré, en quelque sorte. Et puis, voilà, ça y est. C'est tout simple comme démarche, c'est gratuit et ça n'engage à rien.
Ouais. Et à partir de ce moment-là, on peut consulter ce qu'il y a à vendre, voilà, dans la ruche qui nous intéresse. Ça donne accès aux ventes. Et une abeille peut s'inscrire dans 3 ruches différentes. Donc, rien n'empêche d'aller dans plusieurs ruches. On a des clients communs. D'ailleurs, on s'est arrangé, puisqu'on est toutes les deux sur un rythme de tous les 15 jours.
Une vente tous les 15
jours. Tous les 15 jours. Et on n'est pas sur les mêmes semaines. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent chez Martine, qui vont chez Martine et qui viennent chez moi.
Voilà.
On rappelle donc, Véronique Lancelot, votre ruche, elle est située rue Saint-Étienne à Langevine. Et les ventes, c'est le mercredi de 18h30 à 19h30. Donc c'est dans 2 jours ou c'est dans 10 jours?
C'est dans 10 jours.
C'est dans 10 jours la prochaine. Martine Richat, pour vous, ça se passe à Éthique Étape au lac de Maine le vendredi de 17h30 à 19h. Mais là, c'est férié.
C'est férié ce vendredi, donc je vais avancer la vente d'une journée et la faire le 30 avril,
c'est
exceptionnellement.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci.
Merci.
Jacques, tout est magnifique.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Les 22, 23 et 24 mai, le festival Papillon de Nuit va secouer Saint-Laurent-de-Cuve pour la 15e fois. On a voulu en savoir davantage et on a donc téléphoné à Pierre-Olivier Madeleine. Il est administrateur et l'un des 5 programmateurs du festival Papillon de Nuit. Bonjour Pierre-Olivier Madeleine.
Bonjour.
On va présenter Papillon de Nuit si vous voulez bien. C'est un gros festival normand qui attire aujourd'hui plus de 70 000 spectateurs en 3 jours. Pourtant, tout a commencé par un concert annuel dans un village de 500 habitants. On peut revenir sur la genèse de ce festival Papillon de Nuit ?
Oui, bien sûr. Ouais, donc la première édition du festival a eu lieu en 2001. En fait, ça faisait plusieurs années qu'une bande de jeunes de Saint-Laurent-de-Cuve organisait un concert... même plusieurs concerts dans l'année dans la salle des fêtes du village. Et puis jusqu'à ce que la salle des fêtes devienne trop petite. Voilà, donc il y a 15 ans, ils ont décidé de créer le festival. Et depuis, le festival n'a cessé de grandir et l'aventure continue.
Saint-Laurent-de-Cuve, j'ai lu que c'était une zone de revitalisation rurale. Quel bien pensez-vous avoir fait au village avec ce festival Papillon de Nuit ?
Bah déjà, je pense que le festival a permis de situer le village de Saint-Laurent-de-Cuve sur peut-être pas sur la carte de France, mais au moins sur la carte du Grand Ouest, puisque aujourd'hui c'est vrai que le festival est reconnu bien au-delà des frontières de la région. Le but de l'association qui organise le festival, c'est d'amener la culture en milieu rural, d'animer ce petit bout de campagne pendant au moins 3 jours dans l'année, faire en sorte que les gens se retrouvent autour d'un projet culturel fort. Voilà, Papillon Nuit, c'est pas seulement des concerts en plein air au milieu des champs, c'est aussi une grande aventure humaine où plus de 1300 bénévoles se rejoignent chaque année avec 70 000 festivaliers, 4 000 partenaires, voilà, et toute la vie qui va autour.
C'est ça, 1300 bénévoles, vous venez de le dire, ça crée des liens, j'imagine, dans le coin, ce festival.
Ben oui, forcément, 1300 bénévoles dans un petit village de 493 habitants, c'est quelque chose qui est... je pense, unique en France. Donc c'est des gens qui viennent de Saint-Laurent-de-Cuve, évidemment, mais des communes alentours. Et c'est vrai que pour eux, c'est vraiment un moment fort de l'année qu'ils attendent avec impatience chaque année, parce que c'est l'occasion de se retrouver, d'échanger, de se rencontrer, même si parfois c'est des gens qui se voient une seule fois dans l'année, juste à l'occasion du festival. Ils ont toujours plaisir à se retrouver et à participer à cette aventure-là.
Cette aventure-là qui fête son 15e anniversaire, c'est la 15e édition de Papillon de Nuit. Et puisque vous êtes l'un des 5 programmateurs du festival, si vous voulez bien, on va détailler un petit peu cette programmation qui est énorme. Je crois qu'il y a plus de 30 noms à l'affiche, avec beaucoup, beaucoup de têtes d'affiche. On part d'IAM à Christine and the Queens, en passant par Black M, Yannick Noah, Selassou. Quelle couleur musicale vous avez souhaité donner au festival ?
Bah, disons qu'on est fidèle à notre ligne de conduite depuis les débuts du festival. Papillon de Nuit, c'est un festival très très généraliste, très grand public. Hein. On programme vraiment de tout pour tous les goûts, toutes les catégories d'âge, tous les types de public. Donc on fait aussi bien de la chanson française que du rock, du rap, de l'électro, du reggae, de la musique festive. Voilà, donc traditionnellement, le vendredi soir est plutôt orienté reggae, hip-hop, soul, musique du monde. Le samedi est plutôt pop-rock, électro. Et le dimanche, qui est la journée la plus familiale, là on programme plus de la chanson française et de la variété.
Et un petit mot peut-être sur ces têtes d'affiche, Black M, Yannick Noah, Selassou, mais aussi Christine and the Queens. C'était des noms qu'il était important d'avoir à l'affiche cette année ?
Oui, bien sûr. Il y a, comme tous les ans, il y a les incontournables. C'est vrai que l'année dernière, on a eu la chance d'accueillir Stromae, qui était vraiment le carton de l'année. Cette année, on peut dire que la grande révélation, c'est Christine and the Queens. Donc, elle nous fera le plaisir de venir au festival le vendredi soir en compagnie, entre autres, de Selassou et d'IAM. Le samedi, on aura quand même une grosse tête d'affiche internationale avec Placebo, qui fait seulement 4 concerts en France cette année et on a la chance de les accueillir. Il y aura aussi Isia qui fait son grand retour avec un album un peu différent de ce qu'elle a pu signer jusqu'à maintenant. On aura quelques belles révélations en électro aussi avec Ziavner, Fakir et Carbonaire Wave. Et puis dimanche, on a aussi le plaisir d'accueillir à nouveau Yannick Noah, 11 ans après son premier passage au festival. là où il avait vraiment marqué tous les esprits par sa bonne humeur, sa gentillesse, sa proximité avec le public et les bénévoles. On aura aussi Black M pour le public plus jeune, plus ado. Et puis on a aussi la chance et le plaisir d'accueillir Laurie Neal pour sa seule date dans l'Ouest cette année. Donc voilà, pour vraiment une couleur musicale complètement différente.
Alors, hormis ces grosses têtes d'affiche, vous misez aussi sur des pépites moins mainstream. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? J'ai noté, entre autres, les sœurs franco-cubaines d'IBI.
Oui, bien sûr. L'une des particularités aussi de Papillon Nuit, c'est de proposer beaucoup de découvertes. On fait une trentaine de concerts par an, dont à peu près la moitié pour des découvertes. On a une scène, d'ailleurs, qui est dédiée uniquement à ça. Donc, on programme... Ouais, des artistes en devenir, comme IBI par exemple cette année, donc les deux jumelles franco-cubaines qui commencent à pas mal faire parler d'elles. On aura aussi un peu dans le même registre Fada Freddy, mais on a aussi des choses beaucoup plus festives comme le Celtic Social Club, du hip-hop avec Big Flo et Oli, voilà, de la pop avec Shake Shake Go par exemple, et puis de l'électro avec notre comment dire, notre régional de l'étape.
Superpose.
Voilà, qui sera aussi accompagné de Fakir cette année. Donc il y en a vraiment, encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Le but de cette scène découverte qui joue en simultané avec l'une des deux scènes qui programme les têtes d'affiche, c'est de proposer une alternative tout simplement pour que les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le concert d'une tête d'affiche puissent aller découvrir un autre style, un autre artiste sur la scène découverte.
Et parmi les noms de la programmation, des petits jeunes qui ont gagné le tremplin régional du festival, avant de les présenter, peut-être un mot sur ce tremplin, quelle importance il revêt?
C'est important pour nous, depuis 15 ans, on essaie de mettre en avant aussi les groupes de la région. Papillon de Nuit, ça doit aussi être un tremplin et une vitrine pour ces groupes amateurs ou en voie de professionnalisation. Donc tous les ans, on programme 4 ou 5 groupes de la région, 3 notamment en partenariat avec des salles de musique actuelles, basé à Caen, à Saint-Lô et à Alençon. Et puis, depuis 2 ans, on a un tremplin aussi régional qu'on organise en partenariat avec la radio Tendance Ouest et qui nous a permis de sélectionner un groupe donc de Caen, un groupe de rock de Caen qui s'appelle Beach Youth et qui a été retenu parmi 70 candidatures. Voilà, donc c'est un groupe que nous, en tant que programmateurs, on connaissait absolument pas avant sa candidature au tremplin. Mais ma foi, c'est ça qui est intéressant aussi et qui est plaisant dans le fait d'organiser un tremplin, c'est que parfois c'est un outsider complètement inconnu qui tire son épingle du jeu. Voilà, c'est pas forcément le groupe le plus connu de la région, mais en tous les cas, ils ont réussi à mobiliser leur base de fans sur Internet et les réseaux sociaux pour s'attirer les faveurs du public.
Voilà, c'est le public qui a voté en fait pour ce tremplin.
Voilà, exactement. Alors, en tout, il y avait à peu près 70 groupes qui ont postulé. Sur les 70 groupes, on a retenu 5 finalistes avec un jury de professionnels. Et après, les 5 finalistes ont été soumis au vote du public. Voilà, donc pendant 15 jours, les gens ont voté sur Internet. Et c'est donc Beach Youth qui a recueilli le plus de suffrages.
On a cité beaucoup de noms là tout de suite, mais quel est, vous, votre coup de cœur, Pierre-Olivier Madeleine, dans ce festival, le concert que vous ne raterez pour rien au monde?
Alors moi, incontestablement, ce sera Triggerfinger, qui est un super groupe de rock stoner belge. Alors faut savoir que les Belges ont les meilleurs groupes de rock du monde, je pense, au moins d'Europe. Nous, on en accueille tous les ans et à chaque fois, c'est des super concerts. Triggerfinger, je les ai découverts il y a 3 ou 4 ans au Vieille Charrue. Je les ai revus cet automne au Normandie à Saint-Lô et j'ai encore pris une claque parce que c'est vraiment un super groupe de scène hyper classieux. Voilà, ils viennent de sortir un super album à l'automne dernier. Et voilà, personnellement, c'est vraiment, s'il y a un concert dans le week-end que je voudrais manquer pour rien au monde, ce serait celui-là.
Et on va aborder, si vous voulez bien, le tarif de ce festival. Le passe 3 jours, il est à 81 euros. C'est moins que beaucoup de festivals, vu vos têtes d'affiche. C'est une volonté de toucher le plus de personnes possible. On reste dans cet esprit-là, à Papillon de Nuit.
Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est une des particularités du festival. Je me répète, mais c'est un festival grand public, populaire, qui doit être accessible à tous. Donc depuis le début, on a des tarifs qui sont vraiment dans les plus bas de ce qu'on peut voir dans le milieu des festivals en général. 81€ pour un pass 3 jours, c'est vrai que c'est pas cher, surtout quand on sait qu'à côté de ça, le camping est gratuit, il y a un certain nombre de services qui sont aussi... Le prix des consommations sur place est aussi pas très cher. Donc ça, c'est une volonté du festival de rester vraiment accessible au plus grand nombre, sachant que notre public est quand même majoritairement jeune, c'est en général des lycéens, des étudiants, des jeunes actifs. Donc on veut rester justement bon marché, même si ça ne nous empêche pas tous les ans de proposer une affiche ambitieuse.
Merci beaucoup Pierre-Olivier Madeleine d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc le festival Le Papillon de Nuit, c'est le 22, 23 et 24 mai à Saint-Laurent-de-Cuve en Normandie. Merci encore.
Merci à vous.
Papillon de Nuit vous fait gagner 2 passes 3 jours pour le festival. On rappelle les 22, 23 et 24 mai à Saint-Laurent-de-Cuve. Pour ce faire, répondez à la question suivante. Quel est le nom savant du papillon de nuit? Envoyez votre réponse et vos coordonnées à communication@radiocampusangers.com. communication@radiocampusangers.com. Et tout de suite, on écoute Oya de IBI qui sera le samedi 23 mai à Papillon de Nuit.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et la perle de ce soir, c'est un conseil tout personnel. Allez donc voir le documentaire Le Chala de Tunis à 22h au 400 coups. C'est son unique semaine de diffusion et il mérite le détour. Une enquête menée par Kauter Benania sur un mystérieux balafreur de fesses à Tunis en 2003. Un regard acéré sur la société tunisienne d'aujourd'hui, super instructif. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Valentin nous a concocté un micro-ondes, le meilleur moment, les meilleurs moments de campus de la semaine passée.
Les micro-ondes. Réchauffez 3 minutes et savourez le meilleur de la semaine sur le 103 FM.
Yep, 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 les petites mouettes, toujours sur le 103 FM, Radio Campus Angers, Bamboo Station, votre émission reggae, tous les lundis soir entre 23h et minuit. Et donc tout de suite, vous venez d'écouter Tony Robertson, le morceau c'était What a Pace, morceau sorti en 1980. Et donc, on enchaîne avec le prochain morceau. Prochain morceau, ça va être 6 minutes 16 de bonheur, donc, avec Hugh Porter, le morceau c'est Stay Alive.
Vous êtes sur Radio Campus Angers, vous êtes dans votre voiture, vous êtes un peu partout. De toute façon, on dialogue par les ondes. On dialogue par le monde. La musique est un dialogue.
Ça commence à fonder un des principes même du kevinisme. On sait que les kevins sont insistants, sont un élément, de l'anthropologie très, très axé sur le sexe, en oui. fait.
Et voilà. Ils nous cassent bien les parties.
Et là, je crois que Julien, tu m'as l'air en forme ce soir.
Ouais, plutôt, ouais. Toute la journée, ça a été la joie, putain. Parce que quand t'as espéré tout le lundi que ça arrive et que les joueurs le font, bah Valentin, ça, c'est vraiment cool. C'est un putain de kiff.
Tu peux te calmer, s'il te plaît. Il s'est passé quoi?
Putain, mais t'es pas au courant? T'as pas lu la presse locale ou quoi? Angers est monté sur le podium. Ça y est, on est sur le podium.
Futur.
Voilà, dans la mine. À force de naviguer dans l'espace, il s'était rendu sur la planète Freezer. Là.
Jupiton.
Jupiton. Il était sur Jupiton.
C'était la planète Freezer, même. C'était Martial, là, sur la fin. Bien vénère.
Ouais, c'était un extrait live, là, sur la fin du Gore Burger Show. Un truc bien américain, présenté par un monstre.
Par Jabba. Présenté par Jabba.
Hop hop. Tout de suite, vous venez d'écouter Dimple Hands. Le morceau, c'est Every Black Man is a Rasta. Et paye ta petite tuerie encore une fois de plus. Je leur ai dit 50 000 fois ce soir, mais je me suis fait vraiment plaisir. Et je me fais encore plaisir en enchaînant avec un petit Mighty Vikings. Oh, je vais trop galérer à dire ce morceau là.
Avec le temps, j'ai appris quelque chose. C'est qu'il y a quand même deux sujets au monde qu'il ne faut jamais aborder si on veut pas s'attirer les emmerdes, à savoir la politique, n'en déplaise à nos dirigeants, et surtout la religion.
Que ce soit dans les jeux vidéo, aussi bien qu'à table d'ailleurs.
Oh, même partout, hein. Dans la rue, tu peux t'attirer les emmerdes si tu parles religion dans la rue.
Ça t'arrive, toi, de faire genre « Hey, toi, que je ne connais pas, ça te dit de parler politique ?»
Je vais te casser la gueule.
Plus religion en même temps.
Ouais, et bah tout cela, ils ont eu tort. Le SCO n'est pas mort, le SCO est bel et bien de retour en haut du classement.
Le nom du CD, c'est World War 3. Et un CD, un concept fait en 2 ans, entre 2007 et 2009. Autour de la déforestation.
Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Regarde ailleurs jusqu'à 20h30. Merci à Valentin, merci à David pour la réalisation. Nous, on se retrouve demain à 19h. On parlera de l'ISTIA, l'école d'ingénieurs de l'Université d'Angers. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Trouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.